Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation. L'ancien président Olusegun Obasanjo, très confiant pour la désescalade de la violence et la guerre dans la partie est de la RDC. En tout cas, il a affirmé haut et fort hier mercredi après des entretiens qu'il a eus avec le président Félix Tshisekedi et aussi Paul Kagame un jour auparavant. Nous vous en parlons en ouverture de cette édition. Décidément, c'est une lutte acharnée que décide de mener à présent le programme national de lutte contre le paludisme. Il s'engage à vacciner des enfants âgés de 3 à 59 mois dans le Haut-Katanga. Docteur Guy Essebé, directeur adjoint à ce programme que vous suivrez, souligne que l'ambition est de contenir efficacement le nombre des victimes infantiles de la malaria. Qu'en est-il de l'exécution des recommandations issues des états généraux de la justice tenus ici à Kinshasa? La réponse en tout cas vous est réservée dans ce journal avec notre invité, Maître Dieudonné Tshibwabwa, analyste politique et avocat au barreau des Kinshasa Gombe et de Kananga RDC. Restez donc avec nous pour mieux connaître ce qui se passe dans le pays avec toute l'équipe de Radio Kapi mobilisée dans le seul souci de vous rendre service et de la plus belle manière. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonsoir. L'ancien président nigérien, facilitateur de l'EAC, Sadek Olusegun Obasanjo, encourage toutes les initiatives de paix en cours pour la RDC, que ce soit celle des États-Unis d'Amérique ou du Qatar. Il l'a déclaré hier mercredi à l'issue de l'audience que lui a accordé le chef de l'État Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine, portant sur la crise sécuritaire dans l'Est du pays. Suivez cet élément des voix de serviteurs rendu par Elise Kavira.
Obasanjo est l'un des facilitateurs désignés par la Communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté des développements de l'Afrique australe, SADC, pour contribuer à trouver des solutions aux conflits armés qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. En provenance du Rwanda, il indique qu'ils explorent toutes les possibilités sur la situation entre le Rwanda et la RDC pour qu'il n'y ait plus de confrontations militaires et des violences. Il se dit satisfait des discussions entre lui et les deux chefs d'État. Après ces échanges, il compte rencontrer à Lomé le président Faure Gnassingbé, médiateur nommé par l'Union africaine en vue de lui faire part de sa démarche et des pistes envisagées pour une paix durable dans la région. Signalons que ces entretiens que mène l'ancien président nigérien surviennent dans un contexte diplomatique marqué par une avancée notable entre le Rwanda et la RDC. Déjà le 20 juin à Washington, le département d'État américain a annoncé que les deux pays ont paraphé un accord de paix après 3 jours de négociations. Demain 27 juin, il est programmé en principe la signature par les chefs de diplomatie du Rwanda et de la RDC de ces textes en présence du secrétaire d'État Marco Rubio.
Lui aussi est intéressé par la situation dans la partie est de la RDC. C'est le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence qui poursuit sa visite ce jeudi dans le territoire de Nyiragongo. Tom Fletcher, qui séjourne en RDC depuis le début de la semaine, est allé se rendre compte de la situation humanitaire, en particulier celle des retournés de guerre de Kibumba et Buhumba. C'est à une 20aine de kilomètres au nord de Goma. Suivez.
À Kibumba et Buhumba, selon les sources de OCHA, Tom Fletcher a visité ce jeudi, entre autres, le projet que l'ONG MEDER, en partenariat avec l'église baptiste au centre de l'Afrique, CBCA, exécute. C'est notamment au centre de santé de Buhumba. Dans ces centres, l'ONG MEDER procure un appui sanitaire, nutritionnel et de réintégration en faveur d'environ 20 000 retournés. Cet acteur humanitaire avait aussi contribué à la réhabilitation de cette structure sanitaire en février 2025 grâce au financement du fonds humanitaire. Après son arrivée dans la région, Tom Fletcher a visité mardi et hier mercredi deux projets d'assistance humanitaire en faveur de personnes déplacées, des retournés et des résidents locaux. C'est notamment à Minova, en territoire des Calais au sud Kivu, à Chacha et à Sake en territoire des Masisi au nord Kivu. Rappelons qu'après son occupation de Goma, le mouvement rebelle AFC M23 avait démantelé en février 2025 des dizaines de camps de personnes déplacées dans la région. Plus d'un million de déplacés qui y vivaient sont retournés dans leur village. Cependant, ces derniers font face aux nombreux défis de réinsertion socio-économique et sanitaire nécessitant une assistance humanitaire d'urgence.
Nous intéressons toujours sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Nous vous amenons à Ituri, où tous les leaders des groupes armés qui participent depuis lundi au dialogue de paix Daru réitèrent leur engagement en faveur de la paix dans cette province. Ils l'ont exprimé mercredi à la troisième journée de ces assises consacrées à l'exploration des voies de sortie de cette crise qui a longtemps duré en Ituri. Ils demandent notamment au gouvernement de mettre des moyens conséquents pour l'efficacité du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants. Martial Kiza.
Les représentants des groupes armés CODECO, FRPI, MAPI et FPIC qui ont participé au dialogue de paix Daru 1 disent avoir respecté l'accord de cessation des hostilités malgré certaines failles. Des autres milices, Autodéfense et Chidi Yatuna, qui n'étaient pas représentés à ces assises, disent également avoir adhéré à ces processus en signant des accords unilatéraux de paix dont les résultats sont palpables, notamment le désarmement volontaire de leurs hommes. Pour pérenniser ces acquis, ils demandent au gouvernement de renforcer la présence des FRDC dans certaines entités pour assurer la protection des civils. À l'armée, de traquer les groupes armés non inclus dans ces processus, notamment les groupuscules de Mai Mai en provenance de Nord Kivu et les rebelles de ZADF qui sèment la désolation de la province. Mais surtout, de disposer des moyens conséquents au programme de désarmement pour une meilleure réinsertion des ex-combattants afin qu'ils ne soient plus tentés de reprendre les armes. Et de conclure que la pérennisation de ces acquis va permettre le retour des milliers de déplacés dans leur village d'origine. Depuis Arou, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Pour mieux coiffer cette description de la situation sécuritaire dans la partie Est, nous allons parler de ce colloque international de la défense nationale qui ferme ses portes ce jeudi à l'école des guerres de Kinshasa. Ce forum des deux jours vise à peaufiner des stratégies en vue de la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de complexité géopolitique. Le vice-premier ministre de la Défense nationale se réjouit que cette session permette de doter le pays d'une défense moderne. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ce forum de deux jours se tient à l'école de guerre de Kinshasa. Il s'attelle sur la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de complexité géopolitique et sur les questions des conflits internationaux en cours. Face aux défis auxquels les pays font face, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale estime que la défense territoriale ne peut plus c'est concevoir uniquement en termes de déploiement physique des troupes. Elle exige la maîtrise des technologies de l'information, la capacité de veille stratégique, l'intégration du renseignement numérique et la formation adaptée aux forces. Guy Kabombo Mwadiavita.
La République démocratique du Congo, riche de ses ressources et de sa position géostratégique, fait face à des défis très complexes. Ce colloque est donc une plateforme essentielle. Il permettra de croiser les expertises militaires, scientifiques, académiques et diplomatiques afin de proposer des pistes concrètes pour une défense moderne, agile et anticipative.
Ce forum est placé sous le thème enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la RDC dans un contexte de mutation géopolitique internationale. De nombreux officiers subalternes et supérieurs des forces armées de la RDC ont pris part à ces travaux.
Radio Capi, dans les soucis de toujours mieux vous informer de la plus belle manière et de manière plus large, vous propose à présent quelques nouvelles en rapport avec la santé à Lubumbashi où il est 19h08. Sachez que les parents du Okatanga, avec le programme national de lutte contre le paludisme, ce programme va vacciner pour vous très prochainement les enfants âgés de 3 à 59 mois. L'annonce a été faite mercredi à la ministre ad intérim de la Santé par une délégation du ministère de la Santé en séjour dans la capitale du Cuivre. L'objectif fait de lutter contre cette maladie qui fait beaucoup de victimes chez les enfants de cette tranche d'âge. D'amples détails avec Dr Guy Essebé, directeur adjoint au programme national de lutte contre le paludisme, dans cet extrait sélectionné par Jean-Yanduka Bongo.
C'est une intervention où nous allons administrer à nos enfants de 3 à 59 mois une molécule qu'on appelle la cefotaxime pyrimethamine et la modiaquine. Cette administration s'inscrit dans le cadre de nos interventions de la prévention dans la lutte contre le paludisme, parce que vous le savez, au niveau de la province du Okatanga, nous avons un climat qui s'approche presque du climat du Sahel, où on a une longue saison sèche et puis il va s'en suivre une saison de pluie avec des pluviosités intenses qui commencent déjà à partir du mois de septembre et du mois d'octobre. Et pendant cette période, il y a vraiment l'augmentation du nombre de cas de maladies de paludisme et des décès auprès de nos enfants de 3 à 59 mois. C'est alors que le programme de lutte contre le paludisme, ensemble avec ses bailleurs au niveau de l'OMS, nous avons prévu dans le paquet de la prévention mettre aussi une intervention si importante qu'on appelle le SMC. Dans cette intervention, ça va protéger au moins 75% de nos enfants contre le paludisme. Pour mettre l'intervention en place, nous allons prendre 6 zones de santé parce que c'est une phase pilote.
Nous allons nous rendre dans le Maniema pour parler aussi du début de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne de 5 jours concerne 6 zones de santé. Plus de 800 000 enfants de 0 à 14 ans sont concernés par cette activité. L'équipe de vaccinateurs passe des portes à porte pour administrer ce vaccin aux enfants cibles. Le chef d'antenne du programme élargi de vaccination, Pev Kindou, appelle les parents ayant des enfants concernés de bien accueillir les vaccinateurs afin de leur faciliter la tâche. Une mise en garde est faite à l'endroit de tous les intervenants pour que chacun soit responsable de tout acte. On écoute Dr. Roa Lumba Omari au micro de Florence Kisalunga.
Cette campagne d'abord concerne 6 zones de santé de la province. Il s'agit de la zone santé d'Alunguli, de Kailo, de Kindu, de Lubutu, de Ferekeni et d'Obokoti. Ce que nous allons demander aux parents, c'est de pouvoir garder les enfants à la maison parce que les équipes de vaccination vont devoir passer porte à porte pour vacciner tout enfant cible, c'est-à-dire l'enfant âgé de 0 à 14 ans révolu. Alors, il y a des stratégies spécifiques. Il y a bien sûr des écoles où les enfants, s'ils ont fini les examens, ils sont en vacances. Nous savons que pendant cette période-là, les enfants jouent beaucoup. Nous allons demander, surtout pour les parents qui ne restent pas à la maison toute la journée, de pouvoir donner des consignes claires aux gardiens d'en face pour que lorsque les équipes vont devoir passer, que ces gardiens-là puissent recevoir les équipes et que tout enfant cible soit vacciné contre la polio.
Vous suivez Radio Okapi, mettant depuis Kinshasa, il est 18h11. Radio Okapi, une voix pour tous, et nous accordons maintenant la parole et la voix au Centre international des formations des droits humains et développement CIFDH, une organisation basée à Butembo qui dénonce le monnayage des visites aux détenus dans la prison urbaine de Kakwangura. Dans une lettre adressée au maire de la ville, l'organisation précise que chaque visiteur est contraint par les gardiens et surveillants de verser 3000 francs congolais avant d'accéder aux détenus. Baptiste Kakule Moussaï, coordonnateur du CIFDH, appelle à la fin de cette pratique qu'il qualifie des violations flagrantes des droits des détenus. Il s'exprime au téléphone de Martial Papimoukeba.
Au premier poste de contrôle, une somme de 1000 francs congolais est exigée par les agents affectés à la sécurité, notamment des éléments de la PNC, FADC, etc. Au deuxième poste, ce sont les surveillantes pénitentiaires qui exigent à leur tour le paiement de 1000 francs pour permettre aux visiteurs de continuer le processus. Au troisième et dernier poste, à l'entrée immédiate du bâtiment carcéral, un élément de FRDC impose une nouvelle taxe illégale de 1000 francs congolais. Sans avoir payé ces 3000 francs congolais au total, les visiteurs se voient refuser l'accès aux détenus et il est systématiquement refoulé au maire de la ville de Butembo de mettre en place une commission d'enquête administrative locale en vue d'identifier les agents pénitentiaires, policiers, militaires ou autres intervenants impliqués dans le système de monnayage et de proposer des mesures disciplinaires appropriées.
Pour l'instant, nous n'avons pas obtenu ni la réaction des responsables pénitentiaires, encore moins celle du maire de Butembo. Nous parlons encore droits humains sous un autre chapitre, toujours dans le Nord Kivu. L'association des volontaires du Congo, ASVOCO, a soufflé ce jeudi 26 juin 2025 sa 40e bougie. Le président de cette organisation des défenses des droits humains réitère à cette même occasion son message d'appel à l'acceptation mutuelle et cohésion sociale. Pour lui, la solution à la crise sécuritaire qui déchire l'est de la RDC actuellement passe prioritairement par le respect des droits humains. Suivons Doufina Tabou dans ses propos.
Depuis la création de l'association des volontaires du Congo, ASVOCO Fondation Doufina, en date du 26 juin 1985 jusqu'à aujourd'hui, l'association totalise 40 ans de la lutte contre les antivaleurs. Nous devons remercier Dieu qui nous a donné cette force de continuer la lutte. Je ne vous demande rien du tout, sauf le respect des droits de l'homme. Tout ce que nous avons comme problème en Afrique, au monde, c'est dû au non-respect des droits de l'homme, l'exclusion. Les gens ne veulent pas la cohabitation, l'ethnicisme, le tribalisme dominent. En fait, nous avons formé les jeunes dans les droits de l'homme et les volontariats.
Actualité internationale.
En République centrafricaine, une bousculade provoquée par l'explosion d'un transformateur électrique dans un lycée à Bangui, la capitale, a coûté la vie à au moins 29 élèves alors que 260 autres ont été blessés selon Reuters, citant une source hospitalière. L'incident s'est produit pendant que plus de 5000 élèves de 6 autres établissements scolaires de la capitale centrafricaine passaient les épreuves du baccalauréat au lycée Barthélémy Bonganda, théâtre du drame. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a décrété jeudi 3 jours de deuil national en rapport avec ce drame. Et puis, pour sa part, le secrétaire général des Nations Unies a mis en garde contre le nombre élevé des conflits armés dans le monde. Antonio Guterres a appelé les États membres à rester engagés dans leur responsabilité de protection contre la violence. C'était mercredi lors de la 80e séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous assistons au nombre le plus élevé des conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Antonio Guterres lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée générale à l'occasion du 20e anniversaire de la responsabilité des protégés de l'ONU.
L'invité.
Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui de la mise en application des recommandations issues des États généraux de la justice tenues il y a quelques mois en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons Maître Dieudonné Tshibwabwa, analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et de Kananga. En RDC, il s'entretient avec Blaise Shindani.
Dieudonné Tshibwabwa, bonjour.
Bonjour, Blaise.
Quelle évaluation peut-on faire aujourd'hui de la mise en application des recommandations issues des États généraux de la justice?
Vu qu'il n'y a pas un baromètre qui a été mis en place, il est difficile de donner une réponse claire. Mais seulement, il y a certaines résolutions, une ou deux, qui sont déjà mises en place. Mais je veux dire que la difficulté que nous avons, il n'y a pas une permanence dans le suivi de ces résolutions. Donc, pour avoir un baromètre et avoir une réponse claire, il aurait fallu avoir une commission permanente du suivi de ces résolutions. On peut voir où est-ce qu'on en est. Moment, on ne parle que sur base des informations que nous avons de manière éparse, sans pouvoir vérifier. C'est ainsi que je peux dire, on ne peut pas donner réponse claire sur ces résolutions. Il y a plus de 300 résolutions, mais ça fait bientôt, je ne sais pas, 7, 8, 9 mois que les États généraux ont pris fin. Comment juger ces résolutions ou bien leur application? Vu qu'il n'y a pas cette commission permanente, du moins qui travaille, on ne peut pas aujourd'hui quelqu'un dire que nous avons tant de résolutions qui sont mises en place ou pas. C'est un peu ça la difficulté ou bien l'insuffisance à ce niveau.
Dites-nous, au cours de ces États généraux de la justice, l'une des propositions phares était celle de remplacer le Conseil supérieur de la magistrature par le Conseil supérieur de la justice, dans lequel siégeraient, entre autres, le président de la République et les ministres de la justice aux côtés des magistrats. En tant que juriste de formation, comment trouvez-vous cette proposition?
Moi, j'ai toujours défendu l'idée d'une justice indépendante. Et quand je parle de justice, la justice, ce n'est pas seulement lié à la magistrature, c'est un tout. Le modèle que nous avons copié, c'est le modèle français du Conseil supérieur de la magistrature, qui est différent du modèle belge, on parle du Conseil supérieur de la justice. C'est juste un problème de terminologie, mais dans l'applicabilité, c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi? Parce que tant au niveau de la France qu'en Belgique, il n'y a pas que les magistrats de profession qui siègent dans ces deux conseils. En France, je veux vous dire qu'avant la réforme de 2008, le président de la République était président du Conseil supérieur de la magistrature. Son adjoint, c'était le garde des Sceaux, pour vous dire. Mais actuellement, même après la réforme, il y a des personnalités qui font partie du Conseil supérieur de la magistrature, qui sont des personnalités qui ne sont pas des magistrats. Il y a 6 personnes qui sont choisies par le président de la République, d'autres par l'Assemblée nationale, d'autres par le Sénat, pour vous dire que ce ne sont pas que des magistrats. Et en Belgique, c'est encore plus loin. Parce qu'en Belgique, il y a 44 membres, dont 22 sont francophones, 22 de l'anglophone, et dans la moitié de chacun, il y a des non-magistrats, des personnalités. Pourquoi? Parce que la justice ne concerne pas que les magistrats. On ne doit pas avoir peur de la terminologie. Le fait de faire un conseil supérieur de la justice, ça concerne tout le monde. Et ça n'entravera pas dans l'indépendance de la justice qui est régie par la Constitution. Les articles, sauf 59 et autres, de la Constitution qui faut vérifier, sauf forme erreur, parce que moi je ne suis pas habitué à bloquer les articles par cœur comme les gens aiment à bloquer, non, il faut aller lire. La Constitution est claire sur l'indépendance. l'indépendance de la justice. Mais le Conseil supérieur, lui, a un autre rôle. C'est lui qui veille au fonctionnement de la bonne administration de la justice. C'est lui qui va adopter les budgets liés à la justice. C'est lui qui va veiller à prendre des sanctions, s'il faut, disciplinaires pour ceux qui ne respectent pas la justice. C'est un tout. Donc on ne doit pas aujourd'hui avoir peur de changer, d'étendre, bien de modifier en parlant du Conseil supérieur. Moi, je veux même plus loin. Moi, je parle même du Haut Conseil de la justice. Donc c'est un peu ça ma proposition.
Le président de la République avait dit que la justice était malade. Pensez-vous que, telles que les recommandations des États généraux sont mises en pratique, ça pourrait apporter une cure de jouvence pour que la justice se rétablisse?
Il n'y a pas que les États généraux. Les États généraux, quel est l'objectif? C'est de mettre tout le monde ensemble, toutes les parties prenantes, pour que les gens réfléchissent quels sont les problèmes. Donc, le problème, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on constate que la justice est malade. Donc, si vous lisez la passion de l'État de M. Léon Kérouando, de l'ancien Premier ministre, il parle que dans les années 1968, le président Mobutu avait donné une commission de remettre de l'ordre dans la justice qui était malade. Donc, il y a toujours des problèmes. Aucune justice n'est parfaite, c'est vrai, mais on essaie de soigner avec les moyens que nous avons et aussi en fonction des outils que nous avons en main. Donc, la justice est malade. Il faut voir quelles sont les causes. Il peut y avoir des causes structurelles. Quelles sont les conditions de vie, les conditions sociales des magistrats? Parce que c'est eux qui rendent la justice. Quand quelqu'un n'a pas de quoi manger et qu'on vient lui proposer l'argent pour qu'il rende un jugement qui va dans un sens, vous comprenez, je ne justifie pas le fait qu'il le fasse, mais simplement, c'est ces situations sociales. Et aussi, quels sont les moyens mis en place, point de vue, les outils modernes pour rendre la justice? Quand vous avez des magistrats qui sont assis sous un arbre, comment voulez-vous qu'ils rendent une bonne justice? Donc, il y a pas mal d'éléments. Nous devons réfléchir ensemble sur les mesures qui peuvent aider l'ordre judiciaire à se performer et les magistrats à travailler dans de bonnes conditions et rendre des bonnes justices, mais tout en sachant que tout dépend de la personne. Quand vous êtes magistrat, comme je dis, soyez fier de votre titre. Vous êtes un haut fonctionnaire. Donc, on doit vous respecter. Vous êtes honorable. Mais maintenant, vous devez savoir que l'honneur ne marche pas avec la corruption. Donc, chacun a sa conscience.
Maître Dieudonné Tshibwabwa, analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe et Kananga en RDC et de Bruxelles en Belgique. Je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
C'est aussi une occasion pour nous de vous dire sincèrement merci pour cette attention soutenue accordée à cette édition de radio, de journal sur Radio Okapi. Jean-Claude Thiel a assuré la prise des soins et la mise en onde. Billy Van Loutouma vous la présenter. Je vous remets entre les bonnes mains de Stanislas Dumé.